Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié dans la collection Folio Essai, L'étonnement philosophique de Jeanne Hersch est une histoire sélective de la philosophie occidentale, des présocratiques à Karl Jaspers. Il ne cherche ni à dresser un inventaire exhaustif des doctrines, ni à substituer un manuel simplifié aux textes originaux. Son fil directeur est la capacité de mettre en question ce qui paraît aller de soi le fait que le monde existe, que nous connaissions, que nous agissions, que nous soyons libres ou mortels. Hersch présente ainsi des penseurs et des écoles à partir du problème décisif qui a mis leur pensée en mouvement. Son but pédagogique consiste moins à livrer des résultats définitifs qu'à apprendre au lecteur à penser avec chaque philosophe en entrant dans ses questions, ses concepts et ses exigences propres. Le livre assume une perspective personnelle, attentive aux grandes constructions métaphysiques et à la continuité des interrogations philosophiques. Il propose donc une orientation dense, claire mais exigeante, dans une tradition de pensée plutôt qu'une encyclopédie neutre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'étonnement comme rupture avec les évidences ordinaires. Pour Hersch, la philosophie ne commence pas par un savoir spécialisé, mais par une interruption du rapport habituel au monde. L'étonnement désigne le moment où une évidence cesse de suffire, il y a de l'être, des choses existent. Nous parlons de vérité, nous recherchons des causes, et pourtant rien de cela ne va absolument de soi. Cette attitude n'est pas la simple curiosité devant un fait insolite. Elle vise les conditions mêmes de ce que nous tenons pour familier. Le parcours commence logiquement avec les Grecs, lorsque la recherche de principes naturels se distingue des récits traditionnels et pose la question de ce qui explique le réel. La portée du livre tient à ce choix de principes, les doctrines ne sont pas réduites à des listes de thèses, car chacune répond à une difficulté devenue incontournable. Le lecteur est invité à retrouver la nécessité interne des problèmes, par exemple le rapport entre unité et multiplicité, apparence et vérité, changement et permanence. Cette approche rend sensible le fait que les réponses divergent, mais que certaines questions persistantes. Elle évite aussi de présenter la philosophie comme un musée de systèmes achevés. Une pensée reste actuelle lorsqu'elle rend à nouveau problématique une certitude que le lecteur croyait posséder. L'étonnement devient donc à la fois le sujet du livre, sa méthode de lecture et le critère de sa vitalité intellectuelle. Deuxièmement, une histoire guidée par les tournants de la pensée plutôt que par exhaustivité, l'ouvrage assume explicitement son caractère discontinu et sélectif. Hersch ne prétend pas couvrir tous les auteurs, toutes les écoles ou toutes les branches de la philosophie occidentale. Elle choisit des points de repère où une question reçoit une formulation particulièrement neuve ou décisive. Cette méthode donne une forte unité au livre des présocratiques à Socrate, Platon et Aristote, puis des penseurs médiévaux, modernes et contemporains. Le lecteur suit la transformation des manières de concevoir le réel, la connaissance Dieu, la liberté et la condition humaine. Le gain pédagogique est important. Au lieu de noyer chaque auteur dans son contexte bibliographique, Hersch concentre la présentation sur l'impulsion intellectuelle qui organise une doctrine. Cette sélection implique néanmoins une orientation. Les philosophes de la métaphysique et les grandes synthèses occupent une place centrale, tandis que certaines traditions, notamment empiristes, logiques ou analytiques, sont beaucoup moins développées. Le livre doit donc être lu comme une interprétation argumentée de la tradition, non comme son relevé impartial et complet. Cette limite fait aussi sa cohérence. Hersch veut montrer une continuité de questions fondamentales et une hiérarchie de moments philosophiques. Le lecteur peut ainsi acquérir une carte intelligible du domaine, à condition de compléter ensuite ce parcours par les textes des auteurs et par des histoires plus pluralistes de la philosophie. Troisièmement, penser avec un philosophe au lieu de mémoriser une doctrine. Le geste pédagogique le plus caractéristique de Hersch consiste à demander au lecteur de penser avec le philosophe étudié. Comprendre ne signifie pas répéter un vocabulaire ni retenir une thèse isolée. Il faut saisir quelles difficultés commandent les concepts, quelles alternatives sont refusées et pourquoi une réponse peut sembler nécessaire depuis le point de vue de son auteur. Cette exigence éclaire notamment la place de Socrate dans le livre. Le connaître soi-même ne relève pas ici de la seule introspection, il s'agit de reconnaître la fragilité de notre rapport à la vérité, notre ignorance et notre aptitude à nous tromper. Le dialogue socratique ne transmet donc pas un contenu tout fait, il exerce la pensée à examiner ses propres prétentions. Cette logique se prolonge dans le traitement des systèmes plus complexes. Hersch cherche à restituer leur mouvement interne, afin que les notions de Platon, Aristote, Descartes, Spinoza ou Kant ne demeurent pas des étiquettes scolaires. Une telle lecture réclame lenteur et parfois reprise, car elle ne promet pas une compréhension sans effort. Elle refuse pourtant le jargon comme signe de profondeur. Son idéal est une clarté qui respecte la difficulté réelle des problèmes. Cette méthode a une conséquence importante, elle reconnaît aussi les limites de la lectrice. Hersch admet ne pas atteindre la même proximité avec tous les penseurs, notamment Husserl. Cette franchise rappelle que toute transmission philosophique est une interprétation située et que le lecteur doit poursuivre par son propre travail. Quatrièmement, Kant comme moment majeur de la radicalisation critique, Kant occupe une place privilégiée dans la lecture de Hersch, car sa philosophie rend plus radicale la question des conditions de la connaissance. Après les débats modernes sur les idées, la substance, la causalité et les limites de l'expérience, Kant ne se contente pas de choisir entre rationalisme et empirisme. Il demande comment une connaissance objective est possible et ce que notre esprit apporte à la manière dont les objets nous apparaissent. Dans le cadre du livre, cette démarche incarne une forme particulièrement exigeante de l'étonnement. Ce ne sont plus seulement les choses qui demandent à être expliquées, mais aussi la possibilité même de les connaître comme objets d'expérience. Hersch met ainsi en valeur la puissance ordonnatrice de la critique kantienne, qui examine les prétentions de la raison au lieu de les accepter immédiatement. Cette préférence structure en partie son histoire de la philosophie et explique le jugement plus réservé porté sur certains empiristes, vu surtout dans leur relation préparatoire à Kant. Une telle hiérarchie peut être discutée, mais elle a le mérite de rester visible. Le lecteur comprend que le livre défend une conception de la philosophie où la réflexion critique sur la connaissance prépare aussi les questions de liberté, de devoir et de sens. Kant devient moins un monument académique qu'un point de bascule, il oblige la pensée à mesurer ses pouvoirs, ses formes et ses limites, sans renoncer pour autant à la recherche de l'universel. En dernier lieu, de la métaphysique à l'existence, une trajectoire qui mène vers Jaspers, le parcours ne s'arrête pas à la formation des grands systèmes modernes. Hersch aborde aussi Marx, Freud, Bergson, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger et Jaspers en montrant comment les questions philosophiques se déplacent vers l'histoire. La vie, le désir, la subjectivité, le langage et l'existence. Cette dernière partie ne présente pas la pensée contemporaine comme une simple rupture avec le passé. Elle y reconnaît la persistance de la question de l'être et du sens, mais dans un monde où les garanties traditionnelles sont devenues incertaines. Karl Jaspers constitue un aboutissement important de cette orientation. Sa réflexion sur les limites de la connaissance, les situations qui confrontent chacun à son existence et la recherche de ce qui dépasse les objectivations disponibles rejoint la conception herschienne de l'étonnement. Le monde ne peut pas être entièrement enfermé dans une explication totale et cette insuffisance n'est pas un accident à supprimer par une doctrine. Elle est une condition de la pensée philosophique. Hersch ne masque pas les difficultés de certains auteurs contemporains. Son appréciation de Husserl reste réservée et elle critique le ton autoritaire ou l'obscurité qu'elle perçoit chez Heidegger. Ses prises de position confirment que son récit est personnel. Elles servent aussi un critère de lecture précis, une philosophie doit ouvrir un travail de discernement, non imposer au lecteur une parole qui se soustrait à tout examen. En conclusion, l'étonnement philosophique convient au lecteur qui souhaite entrer dans la philosophie occidentale sans recevoir une simple succession de résumés scolaires. Il sera particulièrement utile aux étudiants, aux enseignants, aux lecteurs curieux et à celles ou ceux qui veulent se préparer à aborder les textes de Platon, Descartes, Kant, Nietzsche ou Jaspers avec une première orientation. Il faut toutefois accepter une lecture active, la prose de Hersch est souvent claire, mais les problèmes demeurent difficiles et certaines pages appellent une relecture. Le bénéfice principal est méthodologique. Le livre apprend à relier un concept à la question qui le rend nécessaire, à distinguer une doctrine de sa caricature et à comprendre que la lecture philosophique engage le jugement du lecteur. Par rapport au panorama encyclopédique, il se distingue par un fil directeur fort, par une attention pédagogique aux gestes de pensée et par le refus de feindre une neutralité totale. Hersch ne dissimule ni ses préférences ni le caractère incomplet de sa sélection. Cette franchise permet de lire son ouvrage comme une invitation à discuter une tradition plutôt que comme une autorité définitive. Sa limite est aussi son intérêt à la place dominante accordée aux métaphysiciens et à une continuité orientée vers Jaspers laisse des absences notables. Mais cette perspective cohérente fait du livre un guide intellectuel singulier, capable de faire percevoir les philosophes comme des interlocuteurs vivants et leurs questions comme des problèmes encore ouverts. Si vous souhaitez soutenir Jeanne Hersch, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.